Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Donc il y en a qui ont vu le titre, qui ont dit ça y est, ça commence un peu compliqué, idolotite, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un mot un peu savant qui traduit ou qui transcrit plus exactement un mot grec, eidolotuta, qui veut dire les viandes sacrifiées aux idoles. Donc je ne mets pas pour mettre un mot compliqué, mais c'est un mot que vous pourriez être amené à rencontrer dans la littérature ou dans des livres pour parler des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ce matin, je vais vous parler d'une réflexion sur la liberté basée sur la résolution de ce problème, ces fameuses viandes sacrifiées aux idoles, dont le principal passage qui en parle est dans 1 Corinthiens 8. Donc pour cela, je vais vous parler des différents textes qui parlent de cette problématique de viandes sacrifiées aux idoles. J'expliquerai comment on peut percevoir ce problème, qu'est-ce qu'il signifie, comment il était ressenti. Je parlerai de l'Épître aux Corinthiens elle-même, un peu son contexte, un peu ses messages, le raisonnement de Paul, notamment sur les chapitres 8, 9 et 10, et je reviendrai sur trois notions qui sont abordées dans 1 Corinthiens 8, la connaissance, l'amour, la liberté, et donc qui m'amènera ensuite à conclure sur la résolution de ce problème des viandes sacrifiées aux idoles, et également à regarder quelles applications on pourrait en faire pour les problématiques d'aujourd'hui. Alors les textes, j'ai relevé quatre groupes de textes qui parlent de ce problème de viande sacrifiée aux idoles. Le problème, le premier dans le livre des Actes, au moment du concile de Jérusalem, vers l'an 50, dans Actes 15, 28 et 29. Donc on parle de lettre apostolique, une lettre qui est envoyée aux chrétiens qui ne sont pas sur Jérusalem ou chez les Juifs, et qui aborde déjà cette problématique de viande sacrifiée aux idoles et qui le fait dans le contexte d'un problème de la circoncision de ces nouveaux convertis d'origine grecque ou romaine. Alors dans les versets 28 et 29, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous feriez bien de vous en garder à Dieu. » Donc on voit que dans cette lettre qui est envoyée à des chrétiens d'origine grecque, on parle déjà de cette notion de viande sacrifiée aux idoles et il leur est demandé de s'en abstenir. Ensuite, on a les deux passages dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10. Donc je vais les lire, c'est un peu long, mais... Je vais les lire, c'est un peu long, mais je pense qu'il faut les lire au moins une fois pour les avoir en tête. Donc, dans 1 Corinthiens 8, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'écart de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, et jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. » Donc là, c'est le chapitre 8 de 1 Corinthiens 8 qui montre très clairement qu'il y avait un problème et voilà comment le gérer, est-ce qu'on peut ou pas manger de ces aliments. On a une suite dans 1 Corinthiens 10, donc deux chapitres plus loin. Donc je vais lire également ce passage. « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous, soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je prends part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc là, donc comme je le disais, c'est vraiment le passage avec 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, où sont développées vraiment cette problématique de viande sacrifiée aux idoles. On voit revenir ce problème de viande sacrifiée aux idoles dans Actes 21. Donc Paul rentre sur Jérusalem, c'est juste avant son emprisonnement, juste avant le moment où il va être après emmené en captivité. Et là, il est accueilli à Jérusalem. Et donc, au moment de l'accueil, dans les versets 21 à 25 de Actes 21, « Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Qu'en est-il donc? Certainement, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi... Que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. » Donc on voit qu'en l'an 50, on a le Concile de Jérusalem qui donne un ordre, une direction par rapport à cette problématique de viande sacrifiée aux idoles. Quelques années plus tard, vers 55-56, on a cette première épître aux Corinthiens qui revient là-dessus, qui dit que bon, il y a des cas où on peut prendre cette viande sacrifiée aux idoles. Et on voit que encore deux années plus tard, au moment de Actes 21, le problème est toujours assez fort, assez vif, puisque on ressort cette prescription à Paul alors qu'il arrive à Jérusalem. Et pour conclure sur les textes qui parlent de cette problématique, Apocalypse, où dans l'Apocalypse, dans le chapitre 2, dans deux des condamnations à deux églises, de Pergame et Thyatire, on voit que le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles est toujours là. Donc encore plus tard. Donc là, j'ai relevé 2,14. « Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. » Et un peu plus loin, pour la seconde église, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc voilà, ce problème reste très vif, continue et est toujours mentionné. Alors, par rapport à cela, pour moi, j'ai identifié qu'il y avait deux choses à étudier, deux types de viandes sacrifiées aux idoles. Il y en a une qui manifestement parle aux Juifs, et c'est pour ça que lors du Concile de Jérusalem, le problème est très sensible. On parle de l'alimentation au sens des Juifs, et qu'il y a une première notion qui vient plutôt du judaïsme et qu'il faut analyser. Et une seconde qui est plutôt les viandes sacrifiées aux idoles telles qu'elles étaient mangées par les Grecs dans le contexte grec. Alors, si on regarde par rapport à ce que j'ai appelé la position juive, il y avait la notion de sacrifice de communion avec l'Éternel. Donc cette notion de sacrifier un animal, d'en donner une part à l'Éternel, d'en donner une autre part au prêtre, au sacrifiant et éventuellement à des invités, était quelque chose qui était fait vis-à-vis de l'Éternel, sous forme d'un sacrifice de communion. Donc ça, ce n'est pas un sacrifice aux idoles, c'est un sacrifice à Dieu, qui est tout à fait compréhensible et acceptable. Néanmoins, on a des cas qui remontent à Moïse, Et j'ai relevé le cas notamment à l'issue du veau d'or, dans Exode 32, le verset Exode 32, verset 6. Le lendemain, donc du veau d'or, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc ils viennent d'aller vers le veau d'or, et le lendemain, ils font des holocaustes et ils les mangent. Également dans Nombre, dans Nombre 25, verset 2, Israël demeurait à Shittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Balaam Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc un autre épisode dans l'histoire d'Israël où on les voit participer à des cultes et manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et en dernier verset, dans Exode 34, ce que va dire l'Éternel donc après l'épisode du veau d'or, dans Exode 34, versets 15 et 16, « Ne conclut pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci se prostituent à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. » Donc, quand j'ai lu ces versets, j'ai mieux compris pourquoi il y avait vraiment quelque chose dans le peuple juif, chez les juifs, une peur vraiment de ces viandes sacrifiées aux idoles qui faisait écho à leur histoire et où on voyait que Dieu leur avait demandé expressément de ne pas le faire, de ne pas participer à ces viandes sacrifiées aux idoles. Donc, on peut imaginer que pour des juifs, la peur, ce n'était pas ce que faisaient les Grecs, c'était eux, ce que ça représentait et ce qui avait été interdit par l'Éternel pour eux. Ensuite, donc à l'époque de l'Épître, il y a justement ces fameuses viandes sacrifiées aux idoles, telles qu'elles se pratiquaient dans l'Empire romain. Alors là, je vais vous raconter un peu une histoire de la mythologie, assez rapidement, parce qu'on ne va pas y passer trop longtemps, mais c'est un peu comment on peut arriver à comprendre ce que représentait ce sacrifice. Donc l'histoire, c'est Prométhée qui propose à Zeus deux parts d'un bœuf. Et dans ces deux parts, il y en a une qui est belle, alléchante, et une qui n'est pas du tout appétissante. Et donc il propose à Zeus de choisir une des parts, mais Zeus n'est pas dupe, et il va choisir la première, l'appétissante. Mais en fait, dans la partie appétissante, il n'y a que de la graisse et des os. Donc elle est appétissante, mais en fait, il n'y a rien à manger, ce n'est pas la bonne part à manger. Et dans celle qui n'est pas appétissante, que Zeus va laissé à l'homme, il y a un estomac rempli des viandes comestibles, donc la partie bonne à manger. Donc le côté estomac n'est pas très appétissant, donc Guillaume qui n'aime pas les tripes voit pourquoi. Et donc les viandes appétissantes vont aller du côté de l'homme, mais le fait de manger de ces viandes vont amener aussi l'homme à avoir un statut de mortel et donc à devenir de simples mortels, à la différence des dieux qui ne le sont pas. Zeus va punir les hommes en les privant du feu éternel et Prométhée va revenir, va prendre une partie du feu mais qui ne sera pas le même feu éternel. Et donc, le sacrifice de la viande sacrifiée aux idoles va reprendre un peu cette idée-là de cette viande qui va consacrer la séparation entre Dieu et les hommes. Les hommes ont la part à manger, et les dieux ont les os, la graisse, les choses qui ne sont pas bonnes à manger. Et ça consacre le rôle de chacun, qui est mortel, qui est immortel. Donc c'est un peu cette idée qui est véhiculée derrière ce sacrifice à l'époque. Alors après, au niveau de la vie sociale, donc là, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que toute la viande, quasiment exclusivement chez les Grecs, provenait de ces sacrifices. Ça a été vendu sur les marchés. Donc les gens venaient sacrifier un animal, demandaient le sacrifice d'un animal. Alors une partie allait aux dieux, une partie allait aux prêtres, une partie allait aux gens et à leurs invités. Et s'ils n'avaient pas d'invités, ils pouvaient demander à ce que cette viande soit simplement vendue sur le marché. Donc il y avait vraiment une exclusivité au niveau de la viande. Et ces sacrifices rythmaient la vie de la cité. Donc chaque fois qu'il y avait un événement familial, un événement politique, Chaque fois, ça passait par des sacrifices, par de la viande qui était cuite, qui était offerte à des invités, qui était vendue. Mais tout était un peu, tout événement était source de sacrifices en quelque sorte. Et donc, voilà, chaque personne qui avait quelque chose de particulier à fêter passait par là. Il y avait également, alors c'est une autre dimension, c'est pas le côté manger de la viande de niveau social, mais c'était également au niveau philosophie. Il y avait, suivant qu'on mangeait de la viande ou qu'on n'en mangeait pas, on se mettait d'un côté ou de l'autre, plus d'un côté des dieux. Alors, il y en avait qui défendaient le fait de ne pas manger de la viande et de plutôt monter dans l'immortalité. Donc il y a certains mouvements qui disaient non, il ne faut pas manger de la viande, pour nous, ça nous rapproche de l'immortalité, ça nous rapproche des dieux. Puis à l'opposé, il y avait les cultes dionysiaques où là, c'était l'orgie, on mangeait tout ce qu'il y avait parce que pendant un temps, on se sentait prendre pied avec la nature. Donc voilà un peu comment se voyait un peu le sacrifice à l'époque des Grecs. Alors, quand je dis que ça régulait le rythme de la cité, ça veut dire que toutes les... Par exemple, quand quelqu'un avait une fonction, une nouvelle fonction, cette fonction, ça passait par un sacrifice et par une fête qui était organisée. Donc c'est une question qu'on peut se poser, par exemple, par rapport à Éraste. Donc on en a parlé un petit peu, hein. Pierre-Henri a dit que ça faisait partie des hommes politiques hein, qu'il avait identifiés, qui étaient cités dans Romains et qui étaient à Corinthe. On peut se poser la question, s'il était trésorier de la ville de Corinthe, donc il gérait les marchés, est-ce qu'il était chrétien avant, est-ce qu'il était chrétien après? Mais s'il était chrétien après, est-ce qu'il a dû participer ou faire ce type de sacrifice pour permettre aux gens pour rentrer dans l'habitude et dans le fait qu'on faisait toujours ça quand il y avait quand il y avait quelqu'un qui avait une nouvelle charge. Mais bon, on ne sait pas exactement pour Éraste. Donc voilà un peu comment on peut voir les deux notions de viande sacrifiée aux idoles, je pense, qui se mélangent et qui justifient pourquoi il y a des réactions assez fortes d'un côté comme de l'autre. Alors ensuite, 1 Corinthiens 8. Alors, d'une façon plus générale, pour donner un peu le contexte de cette épître, donc c'est une rédaction qui est datée de 55-56 après Jésus-Christ. Donc, l'église de Corinthe a été créée par Paul. Donc, on a le récit dans le chapitre 18. Hein, l'apôtre Paul arrive à Corinthe. Il va aller chez Aquila et Priscille. Et là, il va s'établir chez eux. Il va aller à la synagogue. Il va annoncer l'évangile. Et une église va petit à petit se construire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il arrive à Corinthe, il vient d'Athènes. Et à Athènes, bon, il y a eu des conversions. Il y a eu des gens qui ont reçu l'évangile. Mais il y a eu aussi un rejet, quelque part, parce qu'on voit que quand, dans le discours à l'Areopage, quand Paul va aborder la problématique de la résurrection, va parler de la résurrection, là, les Grecs, ils vont rigoler, parce que pour eux, ça n'a pas de réalité. Donc ça, c'est par rapport à l'église de Corinthe. Après, Corinthe, la ville elle-même. Alors moi, j'ai parlé de ville nouvelle cosmopolite. Alors pourquoi ? Parce que... Alors, si on reprend l'histoire, je vous montrerai une carte juste après. La Corinthe, c'est sur un isthme qui permet de faire un passage assez simple entre le sud et le nord de la Grèce, entre le Péloponnèse et la partie nord de la Grèce, mais qui est également un passage sur ce bras de mer qui permet de passer de l'est à l'ouest. Donc c'est une position très stratégique au niveau commercial. Et dans l'Antiquité grecque, Corinthe était une ville réputée pour être très riche, parce que c'était un port très important, et qui également qui avait des temples, notamment Aphrodite, qui étaient vraiment très très développés, mais avait une réputation également de débauche. En 146 avant Jésus-Christ, Corinthe, dans le cas des ligues de ces villes grecques, va s'opposer à Rome, et Rome va détruire Corinthe, mais va vraiment détruire Corinthe, va raser la ville, va tuer une partie et va vendre en esclavage le reste de la population. Donc Corinthe n'existe plus en moins 146. Et en 44, avant Jésus-Christ, César va demander la reconstruction de Corinthe. Et donc c'est une ville qui va venir avec des colons, en quelque sorte, hein, puisque les Romains vont donner des terres, notamment à ces légionnaires romains qui étaient en fin de service. On va leur dire, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez vous installer. On est à 85 km de Athènes, donc on est quand même au cœur de la Grèce. Donc les Grecs, ils sont toujours là. Hein. Ils ont pas, c'est pas une bulle avec les Grecs en dehors. Donc les Grecs vont aussi petit à petit reprendre pied dans cette ville. Et c'est également une ville qui avait la réputation d'avoir beaucoup d'esclaves. Et on parle de deux tiers de la ville qui étaient des esclaves, sur une population, alors c'est pas complètement sûr, mais qui aurait pu être de l'ordre de 600 à 700 000 personnes. Donc on peut imaginer 400 000 esclaves, sachant qu'eux, ils venaient de tous horizons. On ne peut pas savoir d'où venaient tous ces esclaves. Alors tout ça parce que, pour dire que Corinthe, c'est une ville cosmopolite, donc des Grecs, des Romains, des esclaves, très variés, au cœur de la Grèce, donc très forte au niveau de la culture grecque, et qui va peut-être accueillir de façon plus ouverte l'Évangile que ce qui a été fait à Athènes, où finalement l'Évangile n'a pas été peut-être si bien accueilli que ça. Donc là, une petite carte pour vous présenter Corinthe. Donc on voit Corinthe là. Là, il y a un isthme qui fait le bras de mer, qui permet de passer au travers de ce bras de mer-là. Donc, la stratégie, la position stratégique, c'est que nous avons le sud de la Grèce qui peut communiquer avec le nord, donc tous les marchandises qui arrivaient au sud pouvaient remonter vers le nord et vice-versa. Et également, tout ce qui arrivait de ce côté-là préférait passer par ce bras de mer plutôt que de faire le tour par là qui était plus dangereux. Donc c'est ça la position vraiment stratégique de Corinthe. Alors les points clés de l'épître. Donc, Paul va rester en contact avec les gens de Corinthe, il va recevoir des nouvelles, on parle d'une lettre qui a été perdue, et il va également recevoir dans le cadre des questions également des Corinthiens. C'est pour ça qu'on dit souvent que la première partie de l'Épître aux Corinthiens, les chapitres 1 à 6, sont plutôt ce qu'il entend dire des Corinthiens auxquels il va répondre. Et la partie des chapitres 7 à 15 va correspondre plutôt à des questions auxquelles il va répondre. Donc dans ces différentes questions, il va y avoir le mariage, les viandes sacrifiées aux idoles, les différents charismes et la résurrection. Alors on commence à voir un peu, à discerner aussi par rapport à ces questions, l'état d'esprit des gens. Les gens sont là en train de chercher à comprendre quel est le meilleur, à avoir un raisonnement, à chercher... comment se comporter vis-à-vis de leur tradition, comment se comporter vis-à-vis des charismes, hein, parce que c'était peut-être quelque chose qui les fascinait. Hein, les charismes, est-ce qu'ils étaient donnés à tout le monde? Est-ce qu'il fallait un certain niveau d'initiation, par exemple? La résurrection, on voit parce que c'était quelque chose qui avait déjà posé problème à Athènes, qui manifestement n'était pas quelque chose de très simple et de très compréhensible pour les Grecs. Et donc, les viandes sacrifiées aux idoles sont une des questions qui est posée parmi d'autres et auxquelles l'apôtre Paul va répondre. Alors, si on revient sur ce problème des idolotites, les différentes personnes à qui on peut adresser la lettre. Alors, on peut imaginer qu'il y avait des Juifs qui s'étaient convertis au travers de l'annonce de l'Évangile dans les synagogues, des Grecs, des Romains, des esclaves, donc une population assez éclectique, des faibles, on nous parle des faibles, on ne parle pas des forts, mais on en déduit que s'il y a des faibles, il y a des forts, et là, ça fait écho à Romains 14 que nous a présenté Jean-Louis, qui parle justement des forts et des faibles, un ou deux ans plus tard, et notamment sur la problématique de l'alimentation d'ailleurs. Alors la question de savoir qui sont les faibles, c'est pas si simple. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé. Alors, il y a eu des stéréotypes, hein, mais... Donc, je me suis posé trois questions par rapport aux faibles. Donc, c'est vrai que ça pourrait être les judéo-chrétiens, ces fameuses personnes d'origine juive, qui restent attachées aux pratiques de l'Ancien Testament, qui ne savent pas s'il faut basculer ou pas basculer, et qui sont peut-être dans une position un peu incertaine. Donc, on a souvent mis en opposition les Grecs qui avaient la connaissance, qui avaient tout compris de l'Évangile, par rapport à ces Juifs qui étaient peut-être pas du tout à l'aise avec leur pratique de l'Ancien Testament. Donc, un peu en opposition, ces deux-là, les forts étant ces Grecs ayant cette connaissance. Une deuxième possibilité, ça peut être les nouveaux convertis, parce qu'on peut imaginer que l'opposition sera entre les forts qui sont des chrétiens d'origine grecque, qui sont devenus mûrs, qui ont bien tout compris, bien compris quelle était la vraie connaissance, et bien compris également ce qui était la vraie vérité, et qui vont s'opposer peut-être à des gens qui arrivent, hein, qui viennent de se tourner vers Dieu, mais qui sont encore très attachés à leurs anciennes pratiques. et qui leur accorde peut-être encore un peu de crédit. Et je me suis dit également, pourquoi pas, mais alors là, c'est le deuxième degré, on pourrait dire, peut-être aussi ces fameux Grecs qui ont la connaissance, qui sont dans des positions peut-être bourgeoises, un peu comme Eraste ou d'autres, qui finalement sont bien contents de pouvoir invoquer la connaissance et la liberté pour pouvoir continuer à pratiquer dans la cité, pouvoir manger avec les autorités des viandes sacrifiées aux idoles, parce que finalement, eux dépendent de la politique et de la vie publique, et ils seraient bien embêtés s'ils ne pouvaient pas y participer. Donc je pense que peut-être Paul, sans les attaquer, mais en profite pour donner des messages qui vont toucher également ces personnes-là et leur rappeler quelles sont les vraies possibilités, la vraie connaissance, ainsi que la vraie liberté. Voilà. Donc ensuite, par rapport à cette problématique-là, on a vu qu'il y avait le chapitre 8, je voulais lire en introduction dans les différents textes, il y a une partie dans le chapitre 10, et je pense que les chapitres 8, 9, 10, il faut vraiment les lire ensemble. Et donc, pourquoi il faut les lire ensemble? Parce qu'on va voir dans le chapitre 8 qu'il y a la notion de viande sacrifiée aux idoles, la notion de connaissance, et cette connaissance doit nous permettre de comprendre que nous ne sommes plus sous la loi et que ces viandes, si on ne leur accorde pas un crédit particulier, on peut tout à fait y participer, ce n'est pas un problème. Et Paul va conclure à la fin du chapitre 8 en disant que oui, on a le droit, donc on parle, suivant les traductions, on parle de liberté ou de droit, ce droit on peut le prendre, mais il va encourager les gens à ne pas le prendre pour ne pas embêter, pour ne pas mal influencer ou faire tomber des gens plus faibles ou plus fragiles. Dans le chapitre 9, il va parler de son ministère apostolique et il va reprendre ce mot droit, il va dire « mais moi j'ai le droit de pouvoir être payé » et il va montrer comment il ne l'a pas pris. Donc il montre ensuite également cette notion de droit, il va la reprendre en disant que oui, non, pour lui, c'est pas, il a des droits aussi, il ne les prend pas. Sachant qu'à l'époque, quelqu'un qui faisait ce travail d'aller annoncer, d'aller développer une théorie, une connaissance, était financé en Grèce, c'était plutôt mal vu de voir quelqu'un qui disait « Non, moi, je ne veux pas être payé pour ce que j'ai raconté. » Les philosophes avaient une vie itinérante. Alors, soit ils étaient attachés à quelqu'un qui les finançait et ils pouvaient parler dans les banquets, soit ils avaient une vie itinérante et ils étaient payés en fonction de ce qu'ils annonçaient et les gens étaient tout à fait d'accord. Et lui, il va dire « Non, moi, je ne veux pas être payé pour ça, je ne veux pas prendre ce droit. » Et donc, il va rebondir sur cette notion de droit. Et ensuite, on va arriver au chapitre 10, où là... Paul va faire une figure de style assez intéressante avec le peuple juif sous Moïse. Et il va faire quelque chose qui est assez compliqué. Il va rappeler le passage de la mer Rouge, il va rappeler ce qui s'est passé au peuple juif, et il va montrer, il va parler de baptême, il va parler de nourriture, il va parler du rocher qui est maintenant Christ Jésus. Et donc il va faire un parallèle entre ce qui s'est passé avec le passage de la mer Rouge et les chrétiens aujourd'hui. Et donc, il y a un parallèle qui va lui permettre de dire ce qui s'est passé au peuple juif peut également vous arriver. Et là, il va donner un autre versant de cette problématique de viande consacrée aux idoles, sacrifiée aux idoles. Il va plutôt dire, attention, si pour vous, ces viandes sacrifiées aux idoles, elles sont vraiment sacrifiées à quelque chose, ce n'est pas simplement un truc auquel vous n'y pensez pas, là, il y a un risque d'idolâtrie. Et là, je pense qu'il parlait aussi particulièrement aux juifs, aux judéo-chrétiens de l'Assemblée. Et il va conclure en parlant justement des deux cas où, pour lui, on peut participer et manger de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, si on synthétise rapidement la pensée de Paul, donc j'ai essayé de faire quelques phrases, elles ne sont pas complètes, mais donc voilà, les idoles ne sont rien, et donc nous avons le droit de consommer de la viande sacrifiée aux idoles. Mais il faut prendre en compte les faibles, pour qui ça pourrait amener à de la confusion et qui pourrait tomber. Ensuite, est-ce déconsidérer que de renoncer à ses droits? Il va répondre que non. Il va revenir sur les idoles, et au lieu de dire les idoles ne sont rien, il va dire attention, si la viande sacrifiée aux idoles, vous la faites par rapport à des idoles qui ont une réalité, Là, vous tombez dans l'idolâtrie, et il va faire le lien avec l'Ancien Testament. Et il va conclure, au final, comment, sur quand et comment on peut manger ces viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, c'est pour moi un peu la compréhension de ce passage et comment on doit se comporter vis-à-vis des viandes consacrées aux idoles, sacrifiées aux idoles. Alors ensuite, il y a différents mots et différentes notions que j'ai relevées dans 1 Corinthiens 8, que je vais vous présenter maintenant. La première, c'est la connaissance. C'est un thème très fort dans 1 Corinthiens 8, hein, la connaissance. Ça commence dès le premier verset, hein, la connaissance enorgueillie, c'est l'amour qui édifie, qui a cité Pierre-Henri également, par rapport à l'orgueil et l'humilité. La deuxième, ça va être l'amour. Et la troisième, ça va être la liberté. Alors, passons à la connaissance. Donc hier, Jean-Paul nous a parlé de la sagesse. Hein. C'était très intéressant parce qu'on est dans des sphères qui ont des points communs, des notions qui se rapprochent. Et c'est également, pour moi, quelque chose qui était très, très important chez les Grecs. Donc, j'ai rappelé le mot grec, hein, gnosis, qui se traduit par connaissance, science. Bon, il y a plusieurs façons de le traduire dans nos Bibles, et qui n'est pas toujours d'ailleurs traduit de la même façon suivant l'endroit où il se trouve, et qui était une notion très, très importante pour les philosophes, parce que la théorie de la connaissance va permettre de fixer les éléments qui correspondent à la vérité, à la réalité. Donc on a parlé de la sagesse, on a parlé de l'intelligentsia. Pour moi, la connaissance, c'est même encore plus derrière, c'est vraiment les briques de base sur lesquelles on va pouvoir construire l'intelligence, on va pouvoir appliquer la sagesse. Alors je me propose de vous lire un exemple qui est très intéressant, l'allégorie de la caverne de Platon. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est assez long, mais vous lire simplement comment Platon voyait, on va dire, la connaissance et l'ignorance des hommes. Et comment il montrait à quel point il le détestait et que pour lui, il fallait monter en connaissance. Alors, je reprends le passage. Alors, on ne voit pas bien, mais là, normalement, c'est une représentation très, très schématique de cette fameuse caverne dont je vais parler. Alors, je vous lis le passage. Hein. Bon, ce n'est pas toujours très fluide, hein, au niveau du français, mais... Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute la largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes-là sont depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. La chaîne les empêchant de tourner la tête, la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Je vois cela, dit-il. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre et en bois, et toute autre espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. « Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, rebondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ? Et comment, observa-t-il, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie ? Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même ? Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient ? Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des parteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux ? Non, par Zeus, dit-il. Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité. Donc je ne sais pas si vous avez fait le lien, hein, ce n'est pas facile avec la petite caverne, mais... Vous avez tout en bas les gens enchaînés, qui ne peuvent pas bouger, qui regardent le mur. Vous avez ce fameux petit mur, comme les murs des marionnettistes, qui cache, derrière lequel passent des gens, et un feu qui va projeter la lumière et qui va faire que tout en bas, on va voir des choses qui ne sont qu'une projection indirecte du feu sur les objets. Et l'extérieur de cette caverne, avec un magnifique soleil. Et donc Platon, ce qu'il va montrer, c'est que ce qu'il déteste, hein, ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est que l'homme, il est en bas, il est enchaîné, et il regarde devant lui, et il se fait leurrer, parce qu'il croit voir, il croit entendre, mais ce n'est pas la réalité. Ce qu'il voit, c'est des projections, c'est des choses indirectes. Alors il va aller beaucoup plus loin, hein, il va aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai lu. Il va imaginer quelqu'un qui sort, qui va revenir, qui va raconter aux gens ce qu'il a vu. Voilà, il va aller très très loin. Et tout ça pour montrer que cette notion de connaissance, c'était quelque chose qui était important pour les Grecs et qui était pour eux la base de la construction du raisonnement et de la perception de la réalité. Donc ils avaient bien compris qu'il y avait une réalité qui n'était pas celle qu'ils voyaient, qu'il y avait quelque chose qui était au-delà d'eux. Mais voilà, il fallait faire des efforts, il fallait réfléchir à comment essayer d'acquérir cette connaissance. Donc la connaissance qui est principalement... rapporté chez Paul, est vraiment une notion qui, à mon avis, faisait vraiment écho à cette connaissance qu'on avait chez les Grecs. Ensuite, on peut se poser la question de la connaissance dans la Bible. Alors là, bon, c'est la façon que j'ai eue de creuser, hein, je parle de la Septante. Donc la Septante, c'était une Bible en grec qui avait été traduite au IIIe siècle avant Jésus-Christ par des Juifs, à une époque où l'hébreu se perdait un peu dans la diaspora juive, et il s'était dit on va traduire l'Ancien Testament en grec pour que des gens qui ne parlent plus hébreu puissent quand même la lire. Donc cette Bible était très répandue à l'époque du Christ, hein, c'était vraiment une Bible très courante, qui a été reprise par les chrétiens et qui du coup a été abandonnée après par les juifs. Mais voilà, c'est une Bible, c'est une traduction, et nos Bibles ne s'appuient pas sur la Septante, s'appuient sur les manuscrits hébreux d'origine. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai essayé de trouver le fameux mot gnosis, essayer de le retrouver, voir comment des traducteurs, quelques siècles auparavant, avaient fait le lien entre la connaissance qu'on pouvait trouver dans la Bible et ce fameux gnosis qu'on retrouve chez l'apôtre Paul. Donc, je l'ai retrouvé dans, par exemple, 1 Samuel 2:3. « Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. » Donc on a un dieu de la connaissance, hein, ça avait déjà été entériné par les traducteurs et par la réalité. On a également plusieurs citations dans les livres sapienceaux, alors prophétique, poétique, il y a plusieurs noms, donc notamment dans le livre des Proverbes. Et dans le Nouveau Testament, donc il y a 30 occurrences, ça veut dire 30 fois le mot gnosis apparaît, et 24 fois chez Paul. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est très, très pris par Paul. Donc là, je vous propose quelques versets pour faire le lien avec cette connaissance dont Paul parle. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera... » De Corinthiens 4:6. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » De Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et j'ai rajouté également Philippiens 3:8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alors, on voit que la connaissance, Dieu, et connaissance, hein, dans l'Ancien Testament, et ça paraît assez logique, puisque celui qui connaît la réalité, la vérité, ce qui nous entoure, parce que nous, on voit, hein, mais la vérité, la réalité, c'est Dieu qui la connaît, c'est lui qui l'a créée. Et on voit que Paul va amener cette connaissance vers une connaissance importante, qui est la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment, on le reverra, c'est le même, pour moi la même démarche avec la liberté, comment... Il part d'une connaissance qui s'ancre très bien dans la culture grecque, qui a une réalité chez les Juifs, et il va amener ça pour en définir une nouvelle connaissance qui est celle dont il parle, connaissance de la gloire de Dieu, connaissance de Dieu, connaissance de Christ. Et la connaissance, donc, pour moi, le verset le plus fort dans 1 Corinthiens 8, c'est « La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie ». Donc, on peut imaginer que pour des Grecs, pour qui la connaissance était quelque chose de très important, ils étaient peut-être tous là à vouloir avoir la connaissance, mais peut-être à oublier les autres aspects de l'Évangile et les aspects notamment de l'amour. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un rappel à l'ordre de Paul par rapport à cette peut-être tendance grecque à s'appuyer sur la connaissance, parce que voilà, il ne faut pas non plus tout faire que par la connaissance. Je vous propose maintenant de parler de l'amour. Alors l'amour, c'est un peu... Là, je n'ai pas fait grec, juif. Hein. J'ai cherché chez les Grecs, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, il y a des notions d'amour, hein, mais pas de notions qui correspondent à l'amour de Dieu, qui ont un équivalent de l'amour d'un dieu ou de Dieu. On passe beaucoup plus dans des choses qui sont peut-être plus humaines, hein, beaucoup moins... Oui, très très éloigné. L'amour devient vraiment un message propre à l'Évangile qu'on ne retrouve pas chez les Grecs et qui va être vraiment, qui va parler naturellement aux Juifs, hein, qui connaissent l'amour de Dieu au travers de l'Ancien Testament, mais qui va être vraiment mis en avant et développé dans l'Évangile. Donc le premier, c'est ce qu'a dit notre Seigneur quand on lui a demandé quel est le plus grand des commandements. Dans Matthieu 22, 37 à 40, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc l'amour est une forme de comportement, de notion qui va amener finalement la loi et les prophètes. Une définition de la liberté qu'on va trouver dans Matthieu 7, verset 12, par Jésus. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors un très beau passage dans 1 Jean, qui va parler de Dieu qui est amour, que je vais vous lire, les versets 7 à 12 de 1 Jean 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc voilà, un très beau passage qui définit l'amour de Dieu, qui donne factuellement les éléments que Dieu a fait pour montrer son amour. Il a envoyé son Fils unique, non pas à notre demande, mais c'est lui qui l'a fait par grâce, pour que nous soyons sauvés. Ensuite, il y a Paul. Paul parle beaucoup aussi de l'amour, et notamment dans cette fameuse première épître aux Corinthiens, on a 1 Corinthiens 13 hein, qui va nous donner une très très belle définition de l'amour. Donc, je n'ai pas pris la carte, mais ma cacahuète m'avait cité 1 Corinthiens 13. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil sympathique, surtout qu'il ne savait pas que j'allais en parler. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour l'amour. Donc, comme je l'ai dit, l'amour, c'est une notion qui n'est pas du tout grecque. C'est vraiment une notion qui nous vient de la Bible, de la connaissance de Dieu, et qui est vraiment bien définie dans l'Évangile, avec justement donc, cette démonstration parfaite de l'amour de Dieu qui correspond à l'Évangile, à l'envoi de son Fils pour le salut de nos péchés. Alors, une troisième notion, la liberté. Alors là, je me suis un peu perdu parce que c'est un thème hyper vaste qu'on voit apparaître dans 1 Corinthiens 8 à la fin quand il dit « Nous avons la liberté, nous avons le droit de pouvoir manger de la viande sacrifiée aux idoles. » Alors je dis « droit et liberté » parce que c'est les deux traductions. Hein, de mémoire, c'est le mot « exousias » qui veut plutôt dire « droit ». Mais dans le chapitre 10, on va nous parler de liberté, et là, on va en parler de Eleutherien, et donc qui est plutôt là le mot liberté. Mais c'est la même notion, c'est cette notion de liberté. Donc je me suis posé la question de comment on pouvait pratiquer cette liberté et qu'est-ce qu'il voulait dire dans le fait qu'on ait la liberté ou le droit de le faire. Alors, pour poser la problématique de la liberté en général, donc dans le dictionnaire biblique que j'avais, j'ai trouvé quatre notions. La liberté politique ou civile, c'est la liberté d'un peuple par rapport à un oppresseur, un pays qui va être dépendant d'un autre. Une liberté à l'égard de la loi, qu'on va retrouver également dans la Bible, hein, notamment dans le Nouveau Testament, quel est notre comportement vis-à-vis de la loi. Et typiquement, 1 Corinthiens 8 est dans cette catégorie-là. La liberté à l'égard du péché, le fait d'être libéré vis-à-vis de l'emprise du péché. Et également un autre aspect, c'est la liberté de l'homme à l'égard de Dieu. Donc c'est un peu les quatre notions qu'on retrouve dans la Bible. Et j'ai réfléchi, comme la connaissance, à deux origines de la liberté. La liberté, les notions qui nous viennent des Grecs, mais également la liberté qui nous est définie dans la Bible et qui nous vient des Juifs. Alors, la liberté chez les Grecs. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'ai un très bon livre sur la table qui est de Jacqueline Dormier qui nous parle de la naissance de la liberté chez les Grecs. C'est très intéressant, c'est pas chrétien, hein, c'est vraiment sur la liberté. Et ça nous permet de comprendre un peu d'où viennent nos notions de liberté en France, hein, liberté, égalité, fraternité, tout ce que l'on revendique. À l'origine, à mon avis, s'ancre dans tout le travail qu'avaient fait les Grecs dans l'Antiquité. Bon, ils ont un peu dévié, hein, parce que les Grecs ont testé, expérimenté beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est intéressant à lire, parce qu'on peut se dire que nos politiques pourraient relire certaines choses. Hein. Il y a des expériences qui ont été menées à l'époque, un peu forcées chez les Grecs, et ils les ont fait découvrir des limites à la démocratie, notamment. Et donc, quand on lit ce livre, hein, la première chose qui saute aux yeux, c'est la volonté, à l'origine chez les Grecs, de la liberté, ça vient d'une peur de l'esclavage. Parce qu'il y a 30 siècles, on va dire, c'était systématique. Les peuples se faisaient la guerre, et dès qu'un peuple perdait, il était en esclavage. Donc c'était un peu, tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, il risquait de se retrouver en esclavage, il suffisait que son pays, son monarque ou son dirigeant perdent, et il partait en esclavage. Et on voit qu'il y avait cette peur chez les Grecs, cette peur de l'esclavage. On le voit chez les Juifs, hein, d'ailleurs, on avait aussi cette problématique-là. Ensuite, ils ont une autre peur qui est venue une fois qu'ils ont à peu près réglé la première. Ils ont une peur par rapport aux tyrans, par rapport aux dictateurs. Ils disaient, mais finalement, on est réduit en esclavage quand on a quelqu'un qui est un dictateur et qui va nous dire ce qu'il faut faire. On perd une liberté. Et donc, ils vont travailler aussi sur comment être libre vis-à-vis d'un tyran, vis-à-vis d'un... C'est là où ils vont justement amener la démocratie. Ils vont commencer à se poser la question de comment ne pas dépendre d'un tyran, d'un dictateur. Alors, j'ai parlé de la loi écrite parce que ça a été justement un tournant très fort à ce moment-là chez eux. Ça a été de dire, ben, si on veut être libre face à un dictateur ou un tyran, il faut qu'on ait une loi qui soit la même pour tout le monde. Et donc, comme ça, tout le monde est évalué par rapport à une même référence. C'est plus le dictateur qui va dire, toi, t'es coupable, toi, t'es pas coupable, de façon complètement arbitraire, comme ça se faisait à l'époque. Donc, ils vont amener cette notion de loi écrite, également de loi non écrite, parce que bon, tout ne peut pas s'écrire, mais ils vont avoir ces deux notions de référence qui vont être utilisées de façon commune. Ensuite, ils vont apporter la notion donc, de démocratie, ils vont amener le fait que ces gens libres, s'ils veulent rester libres, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Alors, la démocratie ne veut pas dire nécessairement le système qui gouverne, hein. Il y a plusieurs systèmes, hein. Nous, on a une république, il y a des monarchies, tout ça n'empêche pas d'avoir une démocratie. Et ils vont également se poser des questions, notamment sur l'égalité entre les citoyens, entre les pauvres, entre les riches. Ils vont se poser la problématique de l'égalité devant la loi. Donc ils vont se poser beaucoup de questions, les Grecs. Ils vont apporter beaucoup de réponses, même s'ils n'étaient pas du tout exemplaires sur le plan de la liberté et sur le plan des droits et de tout ça. Mais voilà, ils se sont posé les questions et ils ont commencé à faire les raisonnements. Alors ensuite, la liberté chez les Juifs. Alors c'est intéressant de voir qu'un des éléments importants du peuple juif, c'est la libération de l'esclavage. Et là où Dieu est un Dieu de libération. Et on voit que le rapport avec les Grecs avaient peur de l'esclavage, les Juifs ont connu l'esclavage et c'est Dieu qui les a libérés. Donc Dieu devient le Dieu libérateur. Dans Exode 3, les versets 7 à 8, l'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. » Donc on voit que Dieu, c'est celui qui va délivrer, c'est celui qui va libérer. Libération des ennemis, alors on a plusieurs citations, là je vais relever celle dans Juges, verset 3, verset 9. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. On a plusieurs mentions dans les psaumes pour délivrer de l'oppression, de l'épreuve. Psaume 18, verset 3. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Également dans le psaume 40, verset 18, moi je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Donc on voit que la notion de Dieu libérateur, c'est elle qui permettait d'aller contre cette problématique de l'esclavage qui posait problème aux Grecs. Les Grecs n'avaient pas Dieu, les Juifs avaient Dieu comme solution ou comme moyen de lutter contre l'esclavage. Donc il y a cette notion de liberté qui était très forte chez les Juifs. J'ai rajouté également la loi, parce que je me suis dit que finalement la loi qui avait été donnée au peuple juif, c'était un peu comme la loi chez les Grecs, c'était un moyen de permettre aux gens de se situer de façon, à égalité les uns par rapport aux autres. Ils avaient une loi figée, une loi en référence, et ils pouvaient tous voir, se comparer par rapport à cette loi. Et on retrouve des choses assez intéressantes par rapport aux Grecs. Alors après, qu'en est-il de la liberté du chrétien? Parce que là, on a parlé des Grecs dans l'Antiquité, du peuple juif dans l'Ancien Testament. Alors c'est Paul, principalement, qui va également parler de la liberté. Donc là, je vous propose de lire un très beau passage sur la liberté, hein, peut-être un des plus emblématiques sur la liberté telle que la définit Paul. C'est Galates 5, 1 à 14. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Qu'il se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il aurait pu parler des viandes sacrifiées aux idoles, hein. Il aurait pu dire, voilà, il parle de la circoncision, il aurait pu parler de ça. Mais il va nous parler d'une vérité différente, une vérité qui est une vérité en Christ. Et je ne sais pas comment on pourrait bien exprimer ça, mais quand on voyait les Grecs ou le peuple juif, il avait des préoccupations au jour le jour. Comment je peux faire ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et là, Paul va nous montrer que Christ, en fait, nous a apporté une liberté, mais beaucoup plus radicale. C'est une liberté où on n'est plus en train de chercher qu'est-ce qui est pur ou impur. Non, cette liberté, c'est une liberté par rapport au péché, c'est une libération du péché, c'est une libération radicale qui n'est plus basée sur une loi, qui n'est plus sur la loi de l'Ancien Testament ou sur quelque loi que ce soit, mais vraiment une liberté et qui est absolue, qui est vraiment, radicale et pas un mode d'emploi pour savoir comment, jour le jour, je peux rester libre. Alors, en conclusion sur la liberté, voilà, c'est ce que je viens un peu d'expliquer. La liberté nous libère de la condamnation de la loi et de tout autre système de loi. Donc c'est ce qu'il avait dit dans Galates 5, verset 1. On n'est pas là pour se mettre sous un autre joug. On est affranchi de la loi, également des autres jougs. Alors comme la connaissance, hein, je trouve que ce sujet, quand il amène la notion de liberté, il sait très bien que les Grecs, ils vont écouter. C'est quelque chose qui est dans leur raisonnement, qui est dans leur culture. Les Juifs aussi, la liberté est un sujet intéressant. Et on va voir que Paul, un peu à l'exemple de la connaissance, va amener ces deux notions pour en faire une troisième, qui va être une définition de la liberté chrétienne. Et la liberté chrétienne, c'est cette fameuse liberté en Christ, cette liberté radicale, qui n'est plus une règle au jour le jour où on se dit, tiens, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, quelque chose de très légaliste, qui nous ferait l'illusion d'une certaine liberté. Alors, sur les idolotites, si on revient et qu'on essaie de mettre tout ça ensemble, ce que j'ai vu dans cette difficulté de la viande sacrifiée aux idoles, c'est que c'est un problème que je considère comme bien traité. Le problème est bien abordé, on voit dans le temps, hein, c'est quand même quelque chose qui est... On a plusieurs passages. On a Paul qui va nous le traiter admirablement. Hein. Je trouve que le chapitre 8 et le chapitre 10 sont deux aspects de la réflexion qu'on doit avoir sur cette problématique-là. Le chapitre 8 en disant, voilà, si on n'accorde pas de valeur à ce que l'on mange, une valeur spirituelle ou une valeur d'esprit, il n'y a pas de problème. Il va mettre un bémol par rapport à l'amour qu'on doit éprouver les uns vers les autres et le fait qu'on ne doit pas le faire si ça gêne quelqu'un ou si ça peut blesser quelqu'un ou si ça peut amener quelqu'un à s'éloigner de Dieu. Et dans le chapitre 10, il va quand même rebasculer sur l'autre aspect en disant, attention, il y a quand même un risque d'idolâtrie. Ça veut dire que si, quand vous mangez les viandes sacrifiées aux idoles, il y a quelque part une notion spirituelle derrière, là, vous êtes dans l'idolâtrie et là, il ne faut pas. Et donc, il va ramener à deux cas assez simples, hein, le fait de pouvoir acheter des viandes au marché et de pouvoir répondre à une invitation de quelqu'un. Il va ramener à ces deux cas-là le fait de pouvoir manger de la viande sacrifiée aux idoles. Alors, en deuxième point, j'ai trouvé que Paul répondait à ces différents publics. Quand il va parler de l'idolâtrie dans le chapitre 10, c'est qu'il va vraiment faire un focus très fort là-dessus. Il va parler beaucoup aux Juifs. Les Juifs vont tout à fait reconnaître cette problématique qui, eux, les gênent, parce qu'il y avait cette peur viscérale. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut se poser la question de comment faisaient les Juifs hein, dans l'Empire grec, puisque si toutes les viandes passaient par des sacrifices polythéistes, comment ils faisaient, eux, pour manger de la viande ? Alors, ce qui se trouve, c'est que la religion juive était autorisée dans l'Empire romain, avait un statut à part, donc je pense qu'ils pouvaient ne pas y participer, simplement qu'ils affichaient clairement à ce moment-là qu'ils étaient juifs. Et donc, est-ce qu'ils auraient eu des charges ? Est-ce qu'ils auraient pu vivre dans la cité de la même façon ? Je ne sais pas. Et les nouveaux convertis, bon, est-ce qu'il fallait qu'ils deviennent juifs pour pouvoir éviter ? Mais peut-être que les juifs de la synagogue auraient dit « Non, non, vous venez avec des idées subversives, on ne veut pas que vous deveniez juifs. Hein. » Mais bon, il y a peut-être une exception pour le peuple juif. Et donc, je trouve que Paul, il va répondre aux juifs, il va répondre aux grecs, aux romains. Bon, je n'ai pas trop parlé des romains, mais là... Il y a beaucoup de similitudes entre les Grecs et les Romains sur le plan des dieux et des sacrifices. Il n'est pas impossible que les uns aient adopté les cultes des autres, hein, c'était assez similaire. Et un troisième point, alors là qui est une conclusion pour moi qui est importante, même si elle est à prendre avec des pincettes, c'est qu'on voit quand même que le Concile de Jérusalem dit « il ne faut pas manger de viande sacrifiée aux idoles ». On voit... Quand Paul, avant son emprisonnement, retourne à Jérusalem, il ne faut pas que les païens mangent de viande sacrifiée aux idoles. Et on voit Paul qui va prendre un positionnement plus nuancé entre les deux. Et c'est ce que j'ai appelé une réponse adaptée au destinataire. C'est-à-dire qu'on voit que Paul, il avait très bien compris pourquoi, du côté de Jérusalem, il ne voulait pas entendre parler de ça. Il savait très bien cette problématique juive. Il était issu du judaïsme et il avait toute la connaissance. Mais il va prendre en compte... Justement le milieu, les païens, les romains, les grecs, il va prendre et il va adapter, il va quand même dire, attention, il y a quand même une notion de connaissance, donc il va le démontrer, il va dire pourquoi on peut le faire, tout en gardant quand même les précautions de l'idolâtrie, parce qu'il y a quand même toujours un risque. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir Paul, et qui peut être un exemple pour nous si on accepte cette conclusion, de savoir comment gérer une problématique lorsqu'on a des convictions, une connaissance qui nous vient de la parole de Dieu et qu'il faut prendre en compte des cas particuliers. Et de ne pas tomber dans un légalisme, hein, parce que Paul, il aurait pu dire, attendez, au Concile de Jérusalem, c'est non. Il aurait pu être assez brutal, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Et il va donner, il va creuser le sujet, il va l'adapter en fonction du public. En conclusion, ouverture pour peut-être les discussions qu'on pourra avoir après. Comment peut-on voir ça aujourd'hui ? Parce que c'est une question qu'on peut se poser, hein, les idolotites, les viandes sacrifiées aux idoles. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Moi, je ne connais pas aujourd'hui dans ce que j'ai vu de religions qui continuent à sacrifier des animaux et à vendre de la viande. Donc on pourrait imaginer que c'est un sujet qui a été réglé et que maintenant, d'ailleurs, il a été réglé puisqu'on ne se pose plus la question maintenant. Il n'y a plus de viande sacrifiée aux idoles. Alors, je me suis posé la question par rapport à des pratiques religieuses. Donc, j'ai parlé des pratiques religieuses similaires. Bon, alors, j'ai parlé de franc-maçonnerie, mais derrière, c'est je dirais, tout le groupe de religions qui essayent d'avoir des parties communes avec le christianisme, qui va dire « Oh oui, mais nous, on aime bien l'évangile de Jean, par exemple, on aime bien tel symbole, on aime bien tel être. » Où il va y avoir justement une difficulté pour nous de rester bien clair sur notre positionnement et ne pas se laisser tirer sur des petites choses un peu périphériques qui nous amèneraient à aller vers d'autres rites. Alors l'islam, des fois, on peut être amené, hein, avec des musulmans, à prier, on peut être amené à participer, hein, à des choses. Comment on le voit ? Est-ce qu'on se dit oh, « c'est pareil » ou est-ce qu'on se dit « non, non, j'y vais, mais je sais bien que c'est pas pareil ». On a parlé d'alimentation, de viande sacrifiée aux idoles, positionnement par rapport à la viande halal, hein, ça fait régulièrement la une de l'actualité, hein, quand on apprend que Auchan vend toute la volaille halal, par exemple. Hein, ça devient assez habituel pour les industriels de dire on fait de l'halal, comme ça, il n'y a qu'un produit, il n'y en a pas deux. Et nous, on découvre qu'on subit ça, mais voilà, quel comportement on doit avoir par rapport à cela ? Par rapport à ce qu'on voit arriver depuis quelques dizaines d'années dans notre pays ou dans le monde occidental, tout ce qui nous vient de l'Asie, les pratiques religieuses, alors le bouddhisme, le shintoïsme, alors on a tous un peu les idées du yoga, est-ce qu'on fait du yoga, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'on a en tête quand on fait du yoga, est-ce qu'on le fait parce qu'il y a un côté spirituel qu'on trouve intéressant qui va peut-être nous enrichir, ou est-ce qu'on dit non, 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 moi je fais du yoga parce que c'est bon pour mes muscles, voilà, ça va me décontracter, ça va me faire du bien. Shintoïsme avec notamment tous les arts martiaux japonais, donc bon, c'est des questions qu'on s'est posées puisque avec Séverine et Agathe on en fait. Et par exemple, cette année, on a eu la question qui s'était posée où le prof a demandé pour les enfants à ce qu'il y ait un cours d'initiation au yoga. Et là, nous, on était là, on n'avait pas trop envie de le faire. Mais bon, c'était un seul cours. Et en fait, on a fait plutôt le parti de bien discuter avec Agathe, de bien lui dire voilà, les risques, ce qu'il fallait, là où il ne fallait pas aller. Et on a laissé ce cas-là. Moi, personnellement, pendant 22 ans, j'ai arrêté de faire des arts martiaux parce que j'en faisais étant adolescent, avant de me convertir. Et après, pendant 22 ans, j'ai bloqué. Je ne voulais plus faire d'arts martiaux d'origine japonaise. Alors là, j'ai trouvé un art martial d'inspiration japonaise. Il y a une petite nuance, parce qu'en gros, ça a été créé par des Français, c'est la petite nuance. Mais il m'a fallu 22 ans avant de me dire « Ok, je pense que maintenant, je peux y aller parce que j'ai les idées claires. » Et ça n'a pas empêché qu'une fois ou l'autre, j'ai prié sur le tapis, quoi, parce qu'il y avait un truc bizarre, quoi. Mais voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, le problème du syncrétisme, alors Séverine m'a dit d'expliquer ce qu'était le syncrétisme. Syncrétisme, c'est le fait de rassembler, de mélanger plusieurs pratiques religieuses. Alors, bon, je crois qu'il n'y a personne d'Amérique du Sud, mais quand on va en Amérique du Sud, par exemple, on est assez surpris de voir le mélange qu'on peut y trouver entre le catholicisme et les pratiques d'origine. Et moi, je me rappelle, au Mexique, en Amérique centrale, j'avais visité une basilique parce qu'elle était très belle à voir. Il y avait une messe à ce moment-là. Et là, j'ai vu des Indiens arriver en dansant. Mais je n'ai rien contre les Indiens qui dansent, ce n'était pas la question. Mais on sent bien qu'il y a eu une volonté d'assimiler des pratiques qui n'étaient pas initialement tournées vers Christ. Et en dernier point, question qui se pose régulièrement, c'est le respect de la loi juive. Parce qu'on se dit toujours, voilà, on est libre, etc. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais bon, si les prescriptions alimentaires, par exemple, de la loi étaient bonnes, pourquoi ne pas les appliquer maintenant ? Et donc ça reste une question qui travaille, hein, des fois. Alors bon, souvent, il y a des gens qui ont des sensibilités plus ou moins fortes là-dessus. Je me souviens, moi, alors, ce n'est pas des prescriptions alimentaires, mais j'avais été un peu embêté il y a une vingtaine d'années dans un groupe d'évangélisation. On avait quelqu'un, bon, à l'époque, il était vieux, il avait 45 ans, et qui avait accepté le message de l'Évangile, qui avait vraiment bien reçu. Et à un moment donné, il a voulu devenir juif. Et là, on était bien embêté. Et il n'y a rien eu à faire. Pour lui, si on devenait chrétien, il fallait d'abord commencer par être juif. Alors, il s'éloignait de nos groupes, hein, inévitablement, parce que nous, on lui apportait cette nouvelle liberté qu'on a en Christ. Et il n'y avait rien à faire, quoi. Il voulait redevenir juif, il voulait repartir sous la loi, il voulait connaître la loi, il voulait refaire tout le scénario, quoi. D'ailleurs, un petit point aussi, on a parlé de la liberté, hein, cette fameuse liberté qui est chrétienne, qui nous a pas. Ça m'a fait plaisir d'entendre le message de Michel, justement, qui nous a parlé du jubilé et de cette liberté qui avait été imaginée par Dieu très très tôt et qui nous a été véhiculée dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi un élément que j'ai apprécié. Et j'ai trouvé donc la plupart des présentations que nous avons eues, là, justement, plein de petits liens. La sagesse, la liberté, dans l'orgueil aussi, il y avait des choses. Il y avait Jean-Louis avec la communion fraternelle. Il y avait plein de petits liens avec la présentation que je vous ai faite. Voilà, je vous remercie de votre patience.